Radio Capi.
Le journal Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité sur Radio Capi ce midi en Ituri, les opérations militaires lancées depuis la mesure de l'état des sièges par le chef de l'État portent déjà ses fruits. Plusieurs villages qui étaient sous contrôle des miliciens sont déjà récupérés par les FARDC en territoire de Djougou en Ituri. L'agence de prévention pour la lutte contre la corruption dénonce un réseau mafieux au Sud Kivu, auteur de la surfacturation du prix du passeport congolais. Nous en parlons dans ce journal. Et puis notre invité, c'est le professeur Michel Ekwalanga. Cet enseignant à l'université de Lubumbashi annonce que son protocole dénommé Bala Inulu 2020 contre le coronavirus a été autorisé par le ministère de la Santé publique à être utilisé dans son approche thérapeutique afin de soigner les malades. Madame, messieurs, bonjour. Commençons par cette nouvelle du Nord Kivu où une accalmie relative s'observe depuis un mois maintenant dans le secteur de Nyamilima, en chefferie de Bouicha, dans le territoire de Rutshuru. Selon la société civile locale, cette accalmie est consécutive aux opérations militaires menées par des nouvelles unités de FARDC qui sont déployées depuis la mise en place de l'état de siège par le chef de l'État. Retrouvons à Goma Gabriel Ouamenya.
Les responsables de cette organisation précisent que les populations locales vaquent actuellement en toute quiétude à leurs activités agro-pastorales. Ils affirment que les combattants de ces groupes armés seraient actuellement en débandade non loin de Nyamilima ainsi que sur l'axe Kiwanja-Ishasha, pourtant vital pour l'économie de la région. Ces nouvelles unités de FARDC qui ont relevé celles des 32 12e régiments contrôlent aujourd'hui toutes les positions jadis occupées par les groupes armés locaux et les forces négatives dont les combattants des FDLR précisés Pacifique et Loiramba.
On nous a amené des militaires jeunes, communément appelés Moussekwa, et cela fait presque un mois que nous vivons une accalmie. Les agriculteurs vaquent librement maintenant à leurs champs, à part quelques cas isolés.
Notons que, entre les mois de février et les mois de mars dernier, les FARDC ont reconquis plusieurs localités longtemps occupées par les groupes armés Nyatura, CMC et FDLR dans l'ouest de Nyamilima en groupement de Binza. C'est entre autres les localités de Rwamisisi, Kakoti, Rusebeya, Kitwa et Nyamitwitwi. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ces temps, les opérations militaires qui ont été lancées depuis le début de l'état de siège par le chef de l'État portent déjà ses fruits. Plusieurs villages qui étaient sous contrôle des miliciens sont déjà récupérés par les FARDC en territoire de Djougou, ce qui a permis à certains déplacés de guerre de regagner leur localité d'origine. D'autres qui ont fui pendant les affrontements dans la brousse refusent de rentrer dans leur milieu. Le porte-parole des FARDC en Ituri demande à la population de faire confiance au FARDC. C'est ce que nous explique Isaac Remoyopé.
C'est depuis environ deux semaines que les unités commando des FARDC ont lancé l'offensive contre les positions des miliciens de la Codeco dans plusieurs localités en territoire de Djougou. Selon des sources locales, plus de 20 villages qui étaient occupés par ces groupes armés en secteur de Walindu, Piti, Dzati et Tati sont déjà passés sous contrôle de l'armée. Certains habitants ont regagné leurs milliers et vaquent librement à leurs occupations. Cependant, nombreux parmi eux n'ont pas d'abri car leurs maisons ont été incendiées par la milice de la Codeco. D'autres personnes ont trouvé refuge dans la brousse pendant les combats entre Béli gérant. Selon la société civile du territoire de Djougou, ces personnes ont peur de retourner dans leurs milliers pour ne pas être confondues aux miliciens de la Codeco. De son côté, le porte-parole de l'armée en Ituri rassure ses déplacés que les FARDC sont là pour assurer leur sécurité. Le lieutenant Gilles Ngongo les encourage à retourner chez eux. Cependant, il leur demande de se désolidariser de cette milice et à collaborer avec l'armée pour que le territoire de Djougou recouvre la paix. De son côté, la société civile lance un appel aux forces loyalistes de poursuivre les opérations négociation pour pacifier toute la zone. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où les patrouilles organisées par les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO rassurent les habitants de Watalinga qui avaient fui les attaques des rebelles ougandais de l'ADF. La majorité de 26 000 personnes qui avaient fui leur localité respective y sont retournées. C'est ce qu'affirme David Mouazé, membre de la société civile de chefferie de Beni, et qui salue l'action des FARDC et de la mission onusienne dans la zone. Écoutez-les au téléphone de Joël Bofengo.
26 000 ménages qui étaient concentrés dans presque 4 villages, notamment Nobili, Bugando, Kikura et Luanuli. 4 villages-là qui ont réussi le déplacer des différents villages qui ont fui les atrocités des ADF. Des incursions, des attaques des ADF à la population, nos forces de sécurité qui sont en train de se émouvoir jour et nuit pour que la sécurité puisse se voir ou se sentir dans la chefferie de Watalinga, c'est-à-dire la MONUSCO fait des patrouilles mixtes avec nos FARDC, surtout sur les périphéries de la chefferie de Watalinga. Et pour nous, comme acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'homme, nous félicitons nos forces qui sont entrées quand même de nous sécuriser pour ce moment. Une fois, il y a une rumeur ou une information, et les FARDC et la MONUSCO se mobilisent pour aller faire le suivi.
Et puis, dans le cadre de la stabilisation de la province du Sud Kivu, la MONUSCO a financé les travaux à hauteur de 50 000 dollars américains pour la construction d'une salle polyvalente moderne pour la mairie d'Uvira. Uvira, une nouvelle entité décentralisée, ne méritait pas mieux que ce projet, SIPA, plus pour faciliter le dialogue en vue d'une cohésion sociale entre les communautés locales. Pour les autorités urbaines d'Uvira, cet ouvrage profite aussi à la population mais aussi aux services étatiques à travers d'autres activités récréatives dont la célébration des fêtes. C'est ce que nous raconte à Uvira Fiston Goma Mayabala.
Il s'agit d'une salle polyvalente de près de 400 places assises avec vestiaire, dépôt, latrine et véranda. Sa location génère des recettes et des emplois depuis déjà plus de 5 mois. Une occasion pour le maire Kiza Mouato de reconnaître la fierté et l'importance de ce projet dans son entité.
Le sens que je donne, c'est la bonne considération, le bon travail des partenariats, puisque la MONUSCO vient en appui à l'État congolais. Il faut cultiver l'amour et le sens de vouloir féliciter ce qui a déjà été fait. Ça, c'est la salle où on célébrera le mariage. Et à moindre coût, ceux-là qui veulent faire de leur fête, on peut les faire à un tarif réduit par rapport à des commerçants, parce que nous ne sommes pas des commerçants. Nous sommes l'État congolais et pour nous, le centre des activités, c'est le peuple d'abord.
L'autorité urbaine sensibilise la population civile locale à développer la culture fiscale pour maintenir et entretenir cet ouvrage, Kiza Mouato.
On a mis en marche les activités de la taxe et voilà, avec la taxe, on a contribué à raison de 7 820 $. Il n'y a aucune ville qui peut se développer sans que sa population puisse contribuer à travers les taxes, les impôts.
La MONUSCO inscrit ses projets dans la logique des soutiens à l'autorité de l'État et des projets à impact rapide. D'Ouvira Fiston Mayabala, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, l'APLC, l'Agence de prévention pour la lutte contre la corruption, dénonce un réseau mafieux dans la province du Sud Kivu, auteur de surfacturation du prix du passeport congolais. Dans un communiqué de presse publié le 18 mai, cette structure de la présidente de la République parle du responsable du centre de capture et d'un groupe d'individus qui, au lieu et en place de livrer un passeport à 99 dollars américains comme prix officiel, s'arroge par contre le droit d'exiger un montant supérieur au requérant. Reportage de Billy Valutuma.
En mettant en œuvre cette dénonciation, l'appel s'est senti en résultat des enquêtes menées dans la province du Sud Kivu par une équipe de ses agents depuis le 14 mai dernier, signale un communiqué de presse. Il reçoit les premiers éléments détaillés du rapport de mission que le responsable du centre de capture de Bukavu piétine le prix institué par la réglementation officielle. Ghislain Kikangala, coordonnateur de l'appel C.
Les passeports sont délivrés sur place au centre de capture moyennant la somme de 150 dollars. Tout le monde sait, au Congo, le prix officiel c'est 99 ou 90 dollars. Du D'une part, on nous explique que 20 dollars sur la majoration est censé couvrir les frais de fonctionnement. Si tel est le cas, deux questions se posent. Qui l'a autorisé? Et surtout, comment peut-on s'assurer que cette somme est effectivement consacrée aux frais de fonctionnement du centre?
Ce questionnement Radio Capillaire retourne à l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, mais au-delà, en demandant pourquoi seulement Bukavu, alors qu'après investigation ici sur place à Kinshasa, un passeport est livré à plus que 150 dollars, soit 200 dollars.
Maintenant, ce que vous me dites, je le considère comme une dénonciation. Et bien sûr, à ce moment-là, la PLC prendra ses responsabilités par rapport à cette situation.
Pour être plus complet sur ce dossier, Radio Okapi vous annonce un plus large éventail de la situation sur la livraison du passeport à travers le pays et plus spécifiquement dans la ville de Bukavu avec la réaction des responsables du centre de capture sur place.
Merci Billy Ivan Lutumba. Et pour être plus complet sur ce dossier, Radio Okapi Bukavu s'est rendu au bureau du centre de capture de passeports au bâtiment de la poste. Au centre de capture des passeports congolais, l'on semble reconnaître certains frais supplémentaires en dehors des autres qui sont fixés par l'ANR pour l'identification des requérants. Emmanuel Elmejo Kabedi.
Le centre de capture des passeports biométriques de la ville de Bukavu est installé dans le bâtiment de la poste. Une dizaine d'agents y œuvrent depuis quelques années maintenant. La première étape, c'est celle de la banque qui est officiellement désignée pour verser les frais de 99 dollars américains après avoir rempli le formulaire y afférent. Vient ensuite l'étape de l'Agence nationale de renseignement ANR pour identification des requérants. Ici, des informations à notre possession indiquent qu'il faut débourser entre 20 et 30 dollars américains. Au retour au centre, il faut payer un montant de 20 dollars américains comme frais de capture. Certains requérants nous affirment avoir déboursé jusqu'à 200 dollars américains pour avoir le passeport en main. Des sources anonymes du centre de capture des passeports de Bukavu, il revient que ces frais supplémentaires serviraient du fonctionnement du centre, de la prise en charge du transport aller et retour des colis Bukavu-Kinshasa-Bukavu, de la prise en charge des travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires mécanisés du ministère des Affaires étrangères, mais également de payer le loyer où est logé le bureau.
Et puis au Kwango, le gouverneur de province Jean-Marie Petit-Petit Tamara vient de suspendre l'opération d'identification des écoles et des enseignants dans toute cette province. C'est suite aux tracasseries dont sont accusés les agents qui ont été dépêchés pour prélever la quotité du gouvernement provincial. Cette décision du gouverneur est annoncée par le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique et porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, Ignace Inkalaba, et au micro d'Irène Mboma.
Ils sont une trentaine d'entreprises à exposer leurs produits. Ces derniers touchent principalement les secteurs miniers et agricoles. Dans les secteurs miniers, par exemple, ce sont principalement les équipements et autres matériels.
Il y a un message qui circule comme quoi nos missionnaires qui sont allés pour prélever la quotité du gouvernement provincial dans le domaine de l'éducation ont connu des dérapages. C'est-à-dire qu'ils sont en train, entre guillemets, de tracasser les enseignants et les directeurs dans certaines écoles. Et étant au courant de cette information, M. le gouverneur venait de me charger de réunir les ministres qui sont ici sur place, les comités de sécurité et les techniciens de l'enseignement pour déclarer la suspension de cette identification des écoles à travers toute la province. C'est vrai. C'est une matière qui est prévue dans la feuille de route qui se trouve entre les mains de son Excellence, Monsieur le Ministre, de l'EPST. Mais sur terrain, nos missionnaires, semble-t-il, font autre chose. En chargé de suspendre l'identification des écoles et des enseignants à travers les 5 territoires de la province du Kwango.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, les opérateurs économiques zimbabwéens sont en rendez-vous d'affaires à Lubumbashi où ils ont exposé leurs produits et rencontré en même temps leurs homologues congolais. Au cours de leur séjour, ils ont émis le souhait de s'installer très prochainement dans la province et utiliser la main-d'œuvre locale. Organisé par une structure dénommée Epelo Service, ce rendez-vous d'affaires ferme ses portes ce jeudi. C'est ce que nous explique à Lubumbashi Jean Gandou.
Ils sont une trentaine d'entreprises à exposer leurs produits. Ce dernier touche principalement les secteurs miniers et agricoles. Dans les secteurs miniers, par exemple, ce sont principalement les équipements et autres matériels pour faciliter l'exploitation minière. La partie zimbabwéenne pense que, dans la province du Haut-Katanga, qui est essentiellement minière, il s'observe une certaine mutation vers les secteurs agricoles. Elle estime que ce dernier secteur offre aussi plusieurs opportunités. Rodrigue Tchakavarika, responsable de Multi Green Holding.
From the mining side, there's massive opportunities. Il y a beaucoup d'opportunités ici à Lubumbashi parce qu'il y a une très grande demande. Alors, ils sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent amener ici leurs équipements pour commencer à produire à partir d'ici en ayant des portions de terre. Les gens sont en train de changer du mining vers l'agriculture et dans l'agriculture, il y a beaucoup d'opportunités parce que les gens sont en train de changer de direction.
Ces Zimbabwéens espèrent aussi consolider des relations d'affaires avec les opérateurs économiques congolais, notamment ceux du Haut-Katanga. Voilà qui a justifié leur descente dans certaines entreprises minières et commerciales de la ville. Pour les organisateurs de ce rendez-vous, ce cadre permet aux opérateurs économiques des deux pays d'intensifier des échanges commerciaux. Et la partie congolaise pourra très prochainement se rendre au Zimbabwe pour exposer aussi ses produits, toujours dans le but de voir comment étendre ses activités commerciales. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Mauritanie, des milliers de personnes ont manifesté ce mercredi dans les rues de Nouakchott, la capitale, pour condamner les bombardements de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Tout en réaffirmant leur indéfectible soutien à la cause palestinienne, les marcheurs, qui représentaient toute la classe politique et la société civile, ont fustigé l'immobilisme de la communauté internationale face au massacre quotidien des femmes et des enfants en Palestine. Au Guatemala, au moins 6 détenus ont péri décapités au cours d'un affrontement entre bandes rivales ce mercredi dans une prison de l'ouest du pays, selon un nouveau bilan qui a été dressé par la police qui assure contrôler désormais la situation. Les faits se sont produits au pénitencier des Cantal, situé à 205 km à l'ouest de la capitale.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Michel Ekwalanga. Cet enseignant à l'université de Lubumbashi annonce que son protocole dénommé Bella Unilou 20 contre le coronavirus a été autorisé par le ministère de la Santé publique à être utilisé dans son approche thérapeutique. Il demande par conséquent au gouvernement d'en faire la promotion pour que les malades soient soignés. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Professeur Michel Ekwalanga, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'avoir l'autorisation pour utiliser les protocoles Bella Unilou 20 contre la COVID. Quelle est donc la prochaine étape?
Normalement, la prochaine étape, c'était la mise sur le marché dans les hôpitaux de ces traitements. Et ces traitements ont acquis les autorisations. Et nous avons publié ça dans un journal américain. Donc, le protocole est connu, il est fiable. Donc, je demande à ce que le ministère de la Santé puisse l'imposer dans nos hôpitaux du pays.
Est-ce que ce protocole, vous l'utilisez déjà sur le terrain? Parce que ça fait à peu près 2 semaines que vous avez l'autorisation.
Sur les terrains, ça a été utilisé parce qu'on a fait des essais cliniques à Kinshasa et à Kolwezi. Et nous avons tenu compte que des malades qui suivaient le protocole. Mais au-delà de ces gens-là, nous avons soigné en dehors du protocole plus de 350 personnes qui peuvent témoigner. Ici à Lubumbashi, nous avons sauvé 3 professeurs qui étaient de Covid positifs et qui étaient même à phase d'oxygénation. Nous avons sauvé à 5 jours de notre protocole.
À ce stade, pouvons-nous dire que vous avez les moyens de votre politique? Vous avez suffisamment de médicaments pour faire face à cette maladie?
Malheureusement pas, parce que le protocole jusqu'à présent a été pris en charge par ma fille et par d'autres donateurs. Et nous avons eu les réserves sur fonds propres. Pour l'instant, on n'a plus de réserves. Il faut commander. Nous attendons que le ministère de la Santé nationale s'investisse et demander au gouvernorat de nous aider. Il faut que au moins les cliniques universitaires ou Saint-Doué disposent des molécules pour soigner les gens. C'est l'argent seulement qui manque. Le protocole de traitement coûte moins de 100 dollars. Et le traitement de prévention coûte presque 30 dollars. Ce n'est pas si cher que ça pour la santé. Je ne vois pas pourquoi la province n'investirait pas dans la poursuite de ces protocoles.
Vous savez que nous sommes dans la province du Haut-Katanga, qui est une province essentiellement minière et où il y a également beaucoup d'expatriés. Mais alors qu'il est, il y a un variant indien qui est en train de terrasser. Nous avons appris que ce variant indien est déjà à Lubumbashi. Votre protocole peut-il y faire face?
C'est le variant indien, il est plus dangereux parce qu'il a 2 mutations. Et la réponse vaccinale, même anticorps, du système immunitaire ne fonctionne pas bien parce qu'il a deux mutations. Et ça fonctionne au niveau d'anticorps neutralisants. Le protocole Bell et Inoulou traite l'immunité à médiation cellulaire. C'est les cellules cytotoxiques. Nous boostons le système et ce système fabrique des cellules cytotoxiques qui tuent le virus. Nous, nous attaquons pas au virus. Le système anticorps, il y a beaucoup d'échappements parce qu'il y a des mutations au niveau de l'attachement. Le virus a une protéine qu'on appelle le spike. Ces protéines mutent parce que le variant indien a deux mutations. Notre mutation ressemble au variant sud-africain, variant indien, variant brésilien. Cette mutation-là, c'est au niveau de la protéine des surfaces. Mais il y a une deuxième mutation qui est plus dangereuse, elle est au niveau du génome. Nous, c'est les cellules cytotoxiques. Donc, notre protocole doit marcher même avec le variant indien.
Votre produit-là, on les fabrique où?
Le protocole Bella Inoulou, c'était ce qu'on appelle les détournements thérapeutiques. C'est-à-dire que nous utilisons les molécules qui sont sur le marché, que nous l'utilisons à d'autres fins. Par exemple, la chloroquine. Nous, la chloroquine, nous utilisons à faible dose pour d'autres raisons. Les interférences sont fabriquées sur place ici à Lubumbashi. Nous gagnons déjà parmi les trois produits, nous avons un produit qui est local. Donc nous pouvons utiliser. L'autre produit, ce sont les interférences qui nous coûtent un peu cher parce que c'est fabriqué en Europe. Mais on pouvait les avoir à faible coût si nous achetons une grande quantité. Les traitements préventifs ou des traitements de guérison coûteraient moins cher. Là, nous achetons pour 100 personnes, nous achetons pour 200 personnes. Les fabricants nous font payer ça comme c'était en détail, alors qu'on aurait pu acheter en gros. C'est trois produits qu'on utilise sublingual. Voilà l'originalité de notre produit. C'est les dans la bouche. Surtout les interférons. Quand nous utilisons l'alpha ou le gamma, c'est dans la bouche. Et les cellules buccales captent ces interférons et s'empêchent la fixation du virus.
Et la personne qui a été vaccinée peut-elle encore prendre votre protocole?
Ben oui, parce que vous venez de dire vous-même qu'il y a un variant indien. Le variant indien ne marche pas avec la vaccination actuelle. On dit maintenant on va essayer d'augmenter les doses. Donc on va ajouter troisième dose. Parce que le thème de production d'anticorps diminue. Même les gens qui guérissent eux-mêmes de corona, après 3 mois, ils perdent des anticorps neutralisants. On a besoin des médicaments. Regardez, il y a beaucoup de maladies comme ça, la tuberculose, la rougeole, tout ça. On les soigne aussi, il y a des traitements contre la tuberculose, même s'il y a un vaccin. Donc ce n'est pas incompatible que les gens qui soient vaccinés puissent, si ça ne marche pas, prendre des traitements. Ce n'est pas incompatible. C'est au contraire additif.
Pour terminer, que faire pour que ce produit soit à la portée de tout le monde?
Je pense que les autorités, tant universitaires que politiques, devaient intervenir pour promouvoir cette thérapie.
Professeur Michel Ekwalanga, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Michel Ekwalanga, interrogé par Jean Gandou à propos de son protocole dénommé Bella Inoulou 20 contre le coronavirus. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Chikota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Alain Rungmouchige. Vous avez le loisir de retrouver ce journal sur les différentes plateformes de Radio Okapi.